Mexique, on est dans une situation nationale très différente. Il y a des pays qui ont des minorités indigènes en sens quantitatif, d'autres qui ont des majorités indigènes, la Bolivie par exemple, le Venezuela, c'est incontestable. L'autre élément d'hétérogénéité qu'il faut prendre en considération, me semble-t-il, c'est au sein même des peuples indigènes en cause. Si je vais faire une rapide analyse, je dirais d'abord qu'un pays comme la Colombie, 2% de la population indigène, 85 groupes ethniques différents, 64 langues différentes. Donc voilà déjà une dispersion du champ qui n'est pas la même situation que celle que l'on va trouver dans notre terre, Andine, de la Bolivie ou du Pérou, où il y a des grands groupes, on a Aymara, Quechua, etc., qui dominent la scène, et qui sont des grandes populations. Donc on est devant, au Brésil, plus de 200 groupes indiens différents, on a plein de Brésil, donc, et des langues, on n'en plus parler. Donc voilà un élément qui montre que les situations sont les mêmes partout, et ajouterait que les populations indiennes analysées d'un point de vue sociologique ou anthropologique sont elles-mêmes très différentes. Donc, si je fais une typologie rapide, je dirais que vous avez une part des populations qui vivent dans les basses terres, en Amazonie, la zone forestière, dans les Llanos, dans le Rénov, etc. Ce sont des populations qui ont largement vécu en dehors de l'État, uniquement avec pendant très longtemps une présence démissionnaire à un moment particulier de leur histoire, mais qui étaient bien en situation, je dirais, aux marges du monde colonial et post-colonial. Par opposition, vous avez des populations paysannes, indiennes, qui étaient au cœur. En Bolivie, en Guatemala, dans d'autres régions, là on a une population très différente. C'est une population qui était à la base du système colonial, qui produisait une valeur absolument indispensable, et qui elle-même se différencie dans leur situation, je dirais, sociologique, entre les Indiens qui vivaient dans des communautés autonomes, d'une autonomie relative, en commune de l'époque coloniale, et ceux qui vivaient dans une situation asservie au sein de la sienne d'art, par exemple. Vous voyez, deux populations. Et à cette hétérogénéité du départ, ça ajoute une nouvelle très importante à considérer, je terminerai en partie avec cela, à savoir que de plus en plus, les populations indiennes vivent dans les villes, et il est probable que dans beaucoup de pays, les populations indiennes urbaines sont majoritaires, si elles ne sont pas déjà dans un certain nombre de pays, et être indien à la ville, vous pouvez comprendre que ceci renvoie à des réalités, à des modes de vie, à des modes de produire, à des modes de se relier à l'ensemble des sociétés nationales qui est profondément différente que de vivre dans des zones de refuge, dans le monde rural. Donc vous voyez, il y a donc un monde très hétérogène. Il faut avoir conscience de cela pour éviter le danger de trop facilement mettre sur l'ensemble de la région des analyses qui sont issues de l'étude d'un cas particulier. Donc il faut être prudent dans ses conclusions. Néanmoins, je vais me risquer à vous donner une analyse d'ensemble, donc je vais faire le contraire de ce que je viens de dire. Et aussi possible néanmoins de voir quelque chose de commun à tous ces peuples qui vivent dans ce qu'on appelle la même latine. Et je dirais qu'ils partagent entre eux, à bien des égards, une même expérience historique qui est issue du modèle colonial, qui a commencé avec la colonisation de ces terres, qui les a mis dans des positions de subordination par rapport à des populations qui venaient de l'extérieur, il y a des forces politiques, des États, les États espagnols. Et que cette commune position structurale sur les espaces latino-américains est un élément qui leur permet de se reconnaître à partir des mêmes expériences historiques avec les orientes qui viennent signaler. Donc le fait d'avoir subi tous, sans restriction, le racisme dominant, bien que caché en Amérique latine, des formes donc, je veux dire, de subordination, d'exploitation particulière qui leur étaient destinées parce que sujet à ce type de domination et d'exploitation, tout ceci forme un commun partagé qui leur permet de se reconnaître aujourd'hui dans le cadre d'une identité générique, je dirais, de façon permanente, c'est dire, nous les frères indiens, nous les frères. Donc, simplement de partager quelque chose de commun, une expérience historique commune. Et ceci permet de rendre compte aujourd'hui des forces, des liens qui sont tissés au sein de cette variété de pays et de mondes indigènes qui les peuplent. Bien, alors, ceci étant dit, je voudrais, dans un deuxième temps, insister rapidement, parce que j'ai le temps, sur ce qui est pas la ligne de force de ce mouvement indigène qui naît, nous le verrons, parce que tout à l'heure je donnerai quelques moments clés de cette histoire qui mène à une quarantaine d'années, 40 ans c'est beaucoup, à tout le moins à notre échelle, moi j'ai connu dans les années 70, donc au début du mouvement indigène, j'en connais aujourd'hui un nouveau moment, mais ces 40 ans sont très longs, et il me me semble qu'il y a une ligne de tension au sein du mouvement indigène entre deux exigences qui peuvent conduire, si on les entendait isolément, vers des centres, vers des chemins très séparés, voire opposés, mais qui arrivent généralement à articuler au sein de même mobilisation collective. La première exigence est une exigence d'égalité, de reconnaissance, une exigence de droit, de dignité. Je crois que c'est très, très, très profondément ancré dans les premières revendications indigènes. Ne plus être considérés comme des animaux, tout simplement, ou comme le racisme auquel on se dresse. Donc, l'exigence d'une égalité, à la fois réelle et symbolique. Le symbolique, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas quand vous dites que vous êtes égaux pour que vous soyez réellement. Donc, il faut du symbolique et ensuite des actes concrets qui permettent cela. Une exigence aussi de participation, d'être intégré, d'être à part entière, et non pas comme des minorités ou des gens dans le monde, dans chaque société nationale. Donc, intégration, pas assimilation, mais intégration, être partie prenante. Un des mots d'ordre des zapatistes au Mexique, c'était Nunca más México sin nosotros. Jamais plus un Mexique sans nous. Nous voulons être à part entière membre d'une collectivité nationale qui est le Mexique. Bon. Et donc, ceci va de pair avec une exigence aussi de réparation, de redistribution, de ressources, etc. Des exigences de l'accès à l'école, à la santé, comme les autres. Donc une exigence de reconnaissance de son égale humanité, qui est très moderne, d'un langage moderne. Et en même temps, il y a une volonté de se faire reconnaître dans sa différence, dans son identité. Donc là, on n'est plus dans l'égalité, mais on est dans l'identité, dans le spécifique. Ce qui vous renvoie à une histoire particulière, ce qui vous renvoie à une condition spécifique, et à des droits particuliers, à des droits collectifs. Je crois que c'est très important à la fois de voir que dans la démarche des mobilisations indigènes, de la Catine, il y a à la fois, nous avons les mêmes droits que les autres, mais nous avons aussi des droits collectifs, qui tiennent à notre histoire particulière. Et ça, cette double exigence me paraît très, très, très importante. Alors évidemment, si on ne retient que la première de demande d'égalité, etc., on pourrait se retrouver répondant à ce qu'était la proposition des gouvernements latino-américains des années 40, 50, 60, d'assimilation, oui, écoutez-vous, on revient avec nous. Si on ne regarde que la dimension des revendications identitaires, de l'ethnicité, du particularisme, alors on peut se retrouver au contraire devant la négation de l'autre, du communautarisme, la fermeture, alors on n'a rien à voir avec vous, etc., on vous rejette, vous nous rejetez, on vous rejette. C'est bien la combinaison de ces deux éléments permet au mouvement indigène d'éviter ces deux écueils, à la fois d'exister dans sa spécificité, mais aussi de se retrouver à part égale donc, au sein des ensembles nationaux. Bon. Ceci dit, puisqu'on me demande de faire un petit peu l'état des lieux, très rapidement, nous sommes devant un mouvement indien qui a commencé il y a une quarantaine d'années. Les dates sont assez faciles parce qu'il y a des moments symboliques de création des premières organisations indigènes, en Équateur d'abord, au milieu des années 60, mais surtout en Colombie, en 71, et puis après dans tous les pays en Inde et d'Amérique. Je ne vais pas rentrer en détail. Donc 40 ans, c'est beaucoup 40 ans. Cela veut dire qu'on est devant une deuxième, pratiquement une troisième génération de militants indigènes. Et que les enfants, avant même les petits-enfants de ceux qui étaient les premiers mobilisés. Ça veut dire qu'on peut déjà dire que, contrairement à ce qu'on peut imaginer à l'époque, quand on va parler des premières mobilisations ethniques, qu'on peut penser que c'était circonstanciel, que ça n'allait pas durer, que comme dans le passé, ce n'est pas la première fois qu'il y a des révoltes indigènes, ceci allait être écrasé ou disparaître. Non, on est devant quelque chose qui a duré. Et je crois que cette durée, cette accumulation de l'expérience au cours des ans, est quelque chose de très important pour comprendre la maturité qu'a aujourd'hui ces mobilisations indigènes, à savoir qu'ils ont su faire tout le bien de cette expérience qui s'est. Alors. Je dirais il y a quatre moments importants qui correspondent à quatre décennies. Bon. Les années 70. Les années 70, c'est le début. Certes, nous avons la phase ironique. On ne sait pas trop de l'extérieur qu'est-ce que c'est exactement que ces gens qui se mobilisent. Est-ce que ce sont des Indiens, est-ce que ce sont des paysans indiens, on ne sait pas trop. Tant plus que les revendications essentielles concernent la terre. La question de la terre n'est pas qu'une question des Indiens, c'est une question des petits producteurs, des paysans. Donc, on est devant quelque chose qu'on a du mal parfois à cerner, mais qui pourtant, dès le départ, manifeste sa différence. Puisque dès le départ, il est bien la question de cette revendication de dignité dont on parlait tout à l'heure, cette lutte contre le racisme, la remise en cause de la subordination, des formes de servage les plus éhontées, qu'on connaissait encore dans la latine de la Bézé 70. Ça c'est très important. C'est le voice, pour parler de Schwarz, c'est une prise de parole nouvelle hein, qui a lieu hein, de la part des premiers dirigeants indigènes. Hein, et c'est le début où on commence à passer d'une culture de la résistance, qui a été la culture qu'ont toujours utilisé les mouvements indigènes pour les populations indigènes pour se maintenir, pour ne pas disparaître, à une culture du mouvement social qui va les amener vers le changement réel de leurs conditions. Donc voilà, 10 premières années hein, qui vous ramènent vers 70, c'est-à-dire d'un contexte très différent d'aujourd'hui. Vers 70, c'est pas, on n'est pas dans le néolibéralisme, on n'est pas dans la mondialisation, on n'est pas dans la démocratisation du système politique, on est avant tout cela. On est avant tout cela. Il faut voir que le mouvement indien a anticipé, hein, ces mouvements qui après ont marqué toute l'Amérique latine, les sorties des régimes militaires, et aussi des nouvelles stratégies économiques mises en place dans le cadre de la remise en ordre des économies latino-américaines et de la globalisation. Donc ça commence avant. Hein. Ça, je crois que c'est important de le noter. Bon. Dès le départ, je dirais qu'il est question de l'autonomie. Alors, c'est pas trop simple, l'autonomie, mais dès le départ, il y a la volonté d'apparaître comme prenant en charge son destin. Ça paraît être des grandes paroles, mais au niveau local, ça veut dire non, nous voulons rester maîtres hein, de nos espaces, hein, nous voulons que nos terres deviennent des territoires reconnus, etc. etc. Donc, voilà, je dirais rapidement, les années 70, les choses ne sont pas entièrement jouées, hein, les répressions sont très dures à ce moment-là. Hein, les premières organisations d'appui au mouvement indigène en Europe commencent à se mettre en place pour aider hein, et donner des ressources juridiques et autres au mouvement indien. Un peu d'argent circule pour favoriser le mouvement indien. Voilà, c'est la phase héroïque. Les débuts. Elle est un peu connue du monde âge. Et puis les années 80, la décennie ensuite, vous voyez, l'Amérique latine est en train de basculer dans les années 80 dans la démocratisation des régimes politiques, les années 80, de partout les uns après les autres. Donc on n'a plus ces régimes autoritaires répressifs. On est dans la grande crise économique de l'hyperinflation, etc. Il est très difficile du point de vue économique. Hein. Et ce que l'on voit, c'est que le mouvement indien se maintient, ne disparaît pas, avec les difficultés économiques qu'il y a, avec les répressions dont il a fait l'objet des années précédentes. Et non seulement il se maintient, mais je veux dire qu'il construit un discours plus cohérent, plus fort en terre identitaire. Bon, les revendications de terre sont toujours les mêmes, sont toujours présentes. Les problèmes n'ont pas été résolus, même si on commence à y porter un début de solution. Dans les années 80, on commence à reconnaître les terres collectives dans beaucoup de pays en Amérique latine. Hein, c'est nouveau, hein, dans les basses terres, etc. Donc il y a déjà des changements qui interviennent. Hein, mais il y a surtout de la part du mouvement indien cette mise en place, je dirais, d'un nouvel arsenal discursif qui lui permette de se penser soi-même et de se faire entendre aux autres sur la base de cette vision originale qu'ils ont donné. Et c'est aussi l'année 80, l'année de création des fédérations indigènes. C'est-à-dire qu'on passe à un niveau organisationnel supérieur hein, et des organisations locales ou régionales, on passe au niveau d'organisation nationale. L'ONIC en Colombie, l'Organisation nationale des Indiens de la Colombie, la CONAIE ailleurs, le CONFENIAE Madagascar, etc. Donc on voit hein, une capacité à s'organiser collectivement. Hein, qui est très manifeste dans les années 80 hein, et qui va donner lieu à des transformations importantes dans les années 80. Bon. Incontestablement, dans ce nouveau discours, la question des droits est très présente. Hein, des droits culturels, des droits collectifs, etc. Au-delà des simples droits, la terre, etc. Alors, années 90, maintenant, on va toujours parler, attendez, alors les années 90, là il y a un basculement hein, du champ, je dirais, parce que d'une part, les États de l'Amérique latine démocratique, etc., dans le cadre d'un nouvel contexte néolibéral, etc., vont se mettre en charge d'adopter la plupart d'entre eux la Convention 169 de l'OIT, très importante, qui vient définir les droits collectifs pour les peuples autochtones. Donc là, c'est là, d'une part. Et d'autre part, il y a dans la plupart des pays des réformes constitutionnelles ou l'adoption de nouvelles constitutions qui sont là pour faire état d'un nouvel état démocratique des choses, pour mettre en place un certain nombre de conditions pour un état de droit en Amérique latine, hein, et qui viennent reconnaître, dans la plupart des pays d'Amérique latine, le fait hein, que cette réalité sociologique et la présence de peuples indigènes n'est pas un simple héritage du passé, mais a vocation à se maintenir, est porteur d'histoire, et d'historicité, et que donc les pays en Amérique latine doivent se penser comme pluriculturels et multiethniques. Car cette réalité-là, ce n'est pas quelque chose que l'on veut effacer au travers de politiques indigénistes, etc., comme dans le passé, mais c'est quelque chose que l'on revendique désormais comme faisant partie de la richesse et de l'histoire de cette région. Donc c'est très important que ce changement, et qui va de pair avec l'adoption dans les constitutions elles-mêmes d'un certain nombre de droits collectifs en termes linguistiques, en termes culturels, en termes d'éducation, en termes de terre, en termes de droits, le droit à disposer de ses propres systèmes juridiques, d'autonomie locale, etc. Donc il y a là. C'est l'heure ?
Vous pouvez finir, mais...
Bon, mais je finis. C'est normal. Bon. Excusez-moi. Non, c'est le jeu. C'est normal de jouer avec le jeu. Je me laisse emporter par... Donc, voilà. On est... Ce qui veut dire pour le moins bien que c'est aussi le début de l'entrée en politique. C'est-à-dire qu'à partir d'un espace démocratique qui s'est ouvert, de plus en plus, il y a des espaces politiques qui s'ouvrent en Amérique latine. Au niveau local, au niveau des municipaux, au niveau régional, et même au niveau national, puisqu'avec Evo Morales en Bolivie, on voit quelqu'un qui se revendique et qui est reconnu comme étant membre de la peuple indien de la Bolivie, accéder à la charge suprême. Donc on est dans une phase vraiment nouvelle, et qui se traduit par cet ensemble de droits collectifs. Bon. Et puis après les années de 2000, ben c'est pas le désenchantement, mais c'est le multiculturalisme à l'épreuve des faits. Est-ce que ces droits reconnus, est-ce que cette entrée dans la politique s'est traduite par une amélioration des conditions d'existence des populations indiennes? Et là, je vais simplement dire trois choses. La première, c'est que il y a une contradiction apparente qui a été maintenant fois présentée entre cette reconnaissance des droits, cette intégration de ces populations-là de manière ou d'une autre dans l'espace national, et en même temps la permanence de l'exclusion économique ou de dégoût et de la pauvreté pour ces peuples indigènes. C'est-à-dire qu'il y a une discordance entre les gains sociaux, culturels, symboliques et tout qu'ils ont, et en face, là, le maintien dans des situations inacceptables du point de vue économique. Donc il y a cette discordance qui est importante. Il y a l'accélération des conflits d'urbanisation et de migration internationale, je ne rentrerai pas dans le détail, mais avec l'apparition quand même de nouvelles générations de jeunes Indiens éduqués, allés à l'université, etc., qui forment, je dirais, une nouvelle catégorie. Vivant en ville, etc., qui est porteur d'intérêts spécifiques, et il y a la montée en puissance, je termine avec cela, de contradictions absolument essentielles qui vont dans l'avenir fondamental quant à la reconnaissance des droits qui ont été faits sur les territoires et la volonté qu'on peut avoir de l'extérieur, soit au niveau des États, soit au niveau des multinationales, d'exploiter à outrance ces territoires qui sont désormais reconnus comme territoire appartenant à des peuples indigènes. Donc les conflits sociaux environnementaux, les conflits autour des ressources naturelles sont la grande question d'aujourd'hui